L'intelligence artificielle, elle s'immisce vraiment partout, hein. Ça transforme les métiers à une vitesse folle.
C'est vrai.
Et le monde juridique, avec ses traditions, ses exigences, bah, il n'y échappe pas.
Non, clairement pas.
Du coup, la question brûle un peu les lèvres. Comment les avocats, ils peuvent apprivoiser cette révolution technologique sans y perdre leur âme, j'ai envie de dire?
C'est toute la question, en effet.
Alors, pour y voir plus clair, on va se pencher aujourd'hui sur un document que je trouve assez fascinant, le Livre blanc sur l'intelligence artificielle. C'est celui publié par le barreau de Paris en octobre 2025. En gros, c'est le bilan d'une année d'initiative pour accompagner les avocats parisiens face à l'IA.
Oui, et notre objectif, là, c'est vraiment de décortiquer cette démarche. Elle est assez pionnière, il faut le dire.
D'accord.
Comment le barreau de Paris aide concrètement ses membres à saisir les opportunités de l'IA, mais aussi, et c'est crucial, à maîtriser les risques.
Les risques éthiques, pratiques.
Exactement. Éthique pratique, c'est une analyse, on va dire, pensée pour celles et ceux qui veulent comprendre vite et bien les enjeux réels de l'IA dans le droit, sans forcément se noyer dans la technique pure.
Bon, alors, comment le barreau de Paris s'y est pris? Comment il s'est emparé de ce sujet qui est quand même complexe et potentiellement clivant? Allez, on plonge dans cette initiative.
Allons-y.
Apparemment, tout est parti d'une question assez simple, presque existentielle, quoi. Elle a été posée au bâtonnier Pierre Hoffmann pendant sa campagne.
Ah oui.
Un avocat lui a dit « Et moi, dans mon petit cabinet, comment je fais ?»
La question de la fracture numérique.
C'est ça, c'était l'écho d'une inquiétude bien réelle qui datait déjà de 2023 face aux gros cabinets qui, eux, s'équipaient déjà en IA. La crainte, elle était palpable.
Oui, effectivement, cette crainte a été un vrai moteur. Et la réponse du barreau, ça a été de dire « on ne laisse pas cette fracture s'installer ».
D'accord.
L'objectif central est devenu très clair, permettre à tous les avocats parisiens, et là on parle spécifiquement des petites structures, hein,
les indépendants, les cabinets d'eux.
Voilà, ceux qui exercent seuls ou à deux, ils représentent quand même près de la moitié du barreau parisien. L'idée, c'est qu'ils puissent accéder à des outils d'IA performants, bien sûr, mais aussi et surtout éthiques, sécurisés et complètement alignés avec leur déontologie.
Donc, l'idée, c'était pas de freiner l'IA, mais plutôt de l'encadrer, de la démocratiser en quelque sorte.
Exactement. C'est ça l'idée force. L'IA, bah, c'est plus une option, quoi. Ça va devenir un outil incontournable.
Le livre blanc le dit assez bien. Les avocats qui utiliseront l'IA remplaceront probablement ceux qui ne l'utiliseront pas.
Ah oui, quand même.
Donc, plutôt que de subir, le barreau a choisi d'agir pour que cette transition, elle bénéficie à tous et qu'elle se fasse dans les règles de l'or. L'IA, elle est vue comme un levier.
Un levier pour quoi exactement?
Pour alléger les tâches chronophages, accélérer la recherche juridique par exemple, et donc libérer du temps pour la relation client, le conseil stratégique, bref, pour remettre l'humain au centre.
D'accord. Et pour passer de cette ambition à la réalité concrète, le barreau a fait quoi? Il a misé sur des partenariats, c'est ça? 7 en un an, j'ai lu, c'est un rythme assez soutenu? Oui, c'est une stratégie tout à fait délibérée. L'idée, c'était de couvrir un large spectre de besoins. Plutôt qu'une seule solution en miracle, le barreau a préféré construire un portefeuille d'outils variés.
Logique.
Le coup d'envoi, ça a été donné assez vite, dès octobre 2024, avec Lefèvre Dalloz. Ils ont offert un accès gratuit pendant un an à leur outil de recherche juridique, Génial for Search.
Ah oui, je vois.
Et ça, c'était pour 14 000 avocats, des petites structures. C'est la base, en fait. Faciliter la recherche juridique, pouvoir poser des questions en langage naturel.
Et au-delà de cette base de recherche, il y a eu quoi d'autre comme type d'outils?
Alors, on trouve des plateformes d'IA juridique un peu plus spécialisées. Doctrine, par exemple, qui propose un tarif préférentiel.
Mmh.
Leur approche, elle repose sur ce qu'ils appellent un legal graph propriétaire. C'est une sorte de cartographie intelligente qui relie des millions de documents juridiques et s'est entraînée spécifiquement sur le droit français.
D'accord, donc plus ciblé.
Voilà. Et puis, il y a des outils encore plus pointus comme Papers Justice. Eux, ils offrent un accès préférentiel à leur base de jurisprudence et surtout un outil d'analyse, Papers Check, qui peut aider à débusquer des erreurs potentielles dans les écritures.
Ah oui, intéressant ça. Et j'ai noté aussi une solution qui semble sortir un peu du lot, CEDI.
Oui, CEDI, c'est un exemple assez frappant de la priorité qui a été donnée à la sécurité, surtout pour les données sensibles. C'est une solution qui permet d'analyser des dossiers pénaux, mais sa grosse particularité, c'est qu'elle fonctionne entièrement hors ligne.
Ah, sans connexion Internet.
Exactement. Pas de Wi-Fi, pas de cloud, donc la confidentialité est maximale. Le barreau a négocié un essai gratuit, puis un tarif préférentiel. Pour des matières comme le pénal, où le secret est vraiment absolu, c'est crucial.
Je comprends. Et il y a aussi des outils pour aider à la gestion quotidienne du cabinet, non ? L'administratif, etc.
Tout à fait. Jarvis Legal, par exemple. Il est offert gratuitement pendant un an aux toutes petites structures. Il intègre un assistant IA, Tony, qui peut aider à automatiser certaines tâches administratives.
D'accord.
Ou encore Ordali. C'est une IA générative pour les cabinets jusqu'à 50 collaborateurs. Elle vise aussi à automatiser des tâches répétitives, avec une réduction tarifaire négociée.
Et on trouve aussi des assistants juridiques plus généralistes, capables de rédiger, de résumer.
Oui, c'est le cas de Jimini. C'est une plateforme d'IA générative avec un assistant qui a été formé spécifiquement au droit continental francophone. Là aussi, une offre découverte, 3 mois gratuits pour les cabinets de petite et moyenne taille, jusqu'à 20 avocats.
Ce qui est frappant dans toute cette liste, au-delà de la diversité des outils, c'est vraiment l'insistance sur les garanties. Sécurité, éthique.
C'est complètement le fil rouge, oui. La commission numérique du barreau, elle a été très vigilante là-dessus. Pour chaque partenaire, le livre blanc détaille précisément les engagements.
Quel type d'engagement, par exemple ?
La conformité au RGPD, évidemment, le Règlement général sur la protection des données, cette législation européenne clé sur la vie privée, l'anticipation de l'AI Act européen aussi, l'hébergement des données en France, et si possible en France, le chiffrement des données, et surtout, l'engagement contractuel ferme de ne pas réutiliser les données soumises par les avocats pour entraîner les modèles d'IA.
Ça, c'est le point sensible.
C'est une condition vraiment sine qua non pour préserver la confidentialité. Essentielle.
Et cette approche proactive, structurée, elle n'est pas restée confinée à Paris, j'imagine. Elle a fait du bruit.
Ah non, loin de là. L'initiative a très vite trouvé un écho important. Le barreau de Paris a été auditionné par le Sénat lors d'une mission d'information sur l'IA et les métiers du droit.
Ah oui !
Et leur rapport, qui est sorti en décembre 2024, il salue explicitement la démarche parisienne.
Il ne fait pas que la saluer, j'ai vu qu'il la recommande même pour d'autres barreaux.
Absolument. La recommandation numéro 5 du rapport sénatorial est très claire. Elle dit qu'il faut favoriser l'accès des plus petites structures aux outils d'intelligence artificielle générative en mutualisant, au sein de chaque ordre, le coût de ses abonnements.
C'est une belle validation.
Oui, c'est une validation forte de cette stratégie « agir plutôt que subir » portée par le barreau. Et ça montre bien qu'un acteur institutionnel, comme un ordre professionnel, il peut vraiment jouer un rôle majeur pour façonner l'intégration d'une technologie disruptive, plutôt que juste la laisser aux forces du marché ou d'attendre une régulation qui est parfois un peu lente à venir.
Et cette reconnaissance, elle dépasse même le strict monde juridique, non ?
Trop secteur.
Impressionnant.
Et le bâtonnier Hoffmann a même été nommé ambassadeur de l'IA par le ministère de l'Économie. C'est une reconnaissance, voilà, de l'exemplarité de la démarche.
On voit bien l'effet boule de neige. Est-ce que d'autres barreaux s'y intéressent concrètement ?
C'est ce que mentionne le livre blanc, oui. Des barreaux en France, Marseille, Dijon, Bordeaux, Lyon sont cités, mais aussi à l'étranger. Contacte Paris pour comprendre le modèle et potentiellement le répliquer.
Ça montre que ça répond à un besoin.
Exactement. Ça répond à un besoin qui est largement partagé, visiblement.
Mais bon, fournir des outils, même s'ils sont bien choisis, bien négociés, ça ne suffit sans doute pas. J'imagine que certains avocats peuvent être un peu intimidés, voire perdus face à ces nouvelles technologies.
C'est un point absolument essentiel et le barreau l'a bien compris, je crois. L'accès aux outils, il s'accompagne d'un volet formation et sensibilisation qui est très conséquent.
Ah d'accord.
C'est indispensable pour que l'adoption soit réussie, qu'elle soit efficace et surtout qu'elle soit sécurisée.
Quel genre de formation ?
Un programme assez complet a été déployé. Il y a eu des conférences de haut niveau, comme celle avec Xavier Niel qui a, paraît-il, rassemblé des centaines d'avocats, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, des ateliers très pratiques.
Pour mettre les mains dedans ?
Voilà, des séances de prise en main des outils partenaires, des webinaires dédiés aux implications déontologiques de l'IA, et aussi des sessions sur les risques cyber, parce que l'usage de ces plateformes, ça augmente forcément la surface d'attaque potentielle.
Donc l'objectif, il est double, savoir utiliser l'outil et savoir l'utiliser correctement sans prendre de risques, c'est ça ?
Précisément, il s'agit d'assurer une appropriation qui soit réelle et sécurisée des technologies, tout en garantissant que cette utilisation reste en parfaite conformité avec les principes fondamentaux de la profession, le secret professionnel, la responsabilité.
D'accord.
L'accès à l'outil d'un côté et la formation à son usage éthique de l'autre, ce sont vraiment les deux jambes de cette initiative.
Très clair. Alors parlons justement du cadre un peu plus large.
toutes ces initiatives, elles s'inscrivent dans un contexte réglementaire qui est en pleine construction, j'imagine. Est-ce qu'on peut déballer un peu ce paysage juridique autour de l'IA ?
Oui, bien sûr. Alors, le texte de référence au niveau européen, celui dont tout le monde parle, c'est le fameux AI Act, le règlement sur l'intelligence artificielle. Il a été adopté en juin 2024.
D'accord.
Et c'est aujourd'hui, en fait, le seul cadre juridique vraiment contraignant qui soit spécifiquement dédié à l'IA.
Et comment il fonctionne en gros ? C'est quoi sa logique ?
Sa logique, c'est une approche par les risques. Il classe les systèmes d'IA en différentes catégories. Tout en haut, il y a certains usages qui sont jugés à risque inacceptable.
C'est-à-dire interdit ?
Oui, purement et simplement interdit. On parle ici de systèmes de manipulation comportementale subliminale, d'exploitation de vulnérabilités spécifiques liées à l'âge, au handicap, de systèmes de notation sociale par les États, le fameux social scoring, ou encore de certains usages de l'identification biométrique en temps réel dans l'espace public, même s'il y a des exceptions très limitées pour des raisons de sécurité majeures, comme la lutte contre le terrorisme.
D'accord. Et pour les IA qui ne sont pas interdites alors ?
Alors, il y a la catégorie des IA dites à haut risque. Ce sont celles qui sont utilisées dans des domaines considérés comme sensibles, la justice, l'emploi, l'éducation, l'accès aux services essentiels, les infrastructures critiques.
Là, j'imagine que les exigences sont plus fortes.
Beaucoup plus fortes, oui. Le règlement impose des obligations très lourdes sur la qualité des données utilisées pour entraîner l'IA, sur la documentation technique qui doit être fournie, sur la transparence envers l'utilisateur, sur la nécessité d'une supervision humaine obligatoire, sur la cybersécurité qui doit être renforcée. C'est assez contraignant.
Et en dessous de ce haut risque ?
Ensuite, on trouve les IA à risque limité. Là, on pense typiquement à la plupart des chatbots ou aux systèmes qui génèrent des deepfakes. Pour eux, l'obligation principale, c'est la transparence. L'utilisateur doit simplement être informé qu'il interagit avec une IA ou que le contenu qu'il voit, une image, une vidéo, est généré artificiellement.
Simple information.
Voilà. Et enfin, pour tout le reste, ce qui est considéré comme à risque minimal, la grande majorité des applications IA, en fait, il n'y a pas d'obligation spécifique prévue dans les IACT.
D'accord. Et qui surveille tout ça ?
Un nouveau bureau européen de l'IA a été créé spécifiquement pour superviser l'application de ce règlement. Et son application, elle s'étale dans le temps, progressivement, jusqu'en août 2026.
C'est pas tout en même temps.
C'est un cadre qui se met donc en place, mais qui laisse sans doute encore des zones d'interprétation, non ?
Oui, bien sûr. Et puis à côté de ce texte qui est contraignant, il y a toute une série de réflexions, de principes qui ne sont pas forcément contraignants, mais qui influencent quand même les pratiques.
Comme quoi, par exemple ?
Il y a eu la charte éthique européenne sur l'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires, qui date déjà de 2018. Elle posait des bases importantes, respect des droits fondamentaux, non-discrimination, qualité, sécurité, transparence, et ce principe clé de la maîtrise humaine, « under user control », disait-il.
Et en France aussi, la réflexion est très intense. Il y a eu de nombreux rapports. Le rapport Villani en 2018, celui du Conseil d'État en 2022, le rapport du Sénat dont on parlait, mais aussi des travaux de la Cour de cassation, du ministère de la Justice. Tous cherchent à anticiper les impacts et à guider les usages.
Dans ce contexte foisonnant, quels sont les avantages, mais surtout, quels sont les risques spécifiques pour les avocats, tels qu'ils sont identifiés dans le livre blanc du barreau de Paris ? Les avantages, on les devine un peu. Le gain de temps sur les recherches, l'automatisation de tâches un peu rébarbatives. Le document parle même d'aide à l'analyse prédictive, mais il reste prudent là-dessus.
Oui, les gains potentiels en efficacité sont clairs. Mais le livre blanc, il met surtout l'accent sur les risques. Et ils sont loin d'être négligeables.
Le premier, j'imagine, c'est la confidentialité.
Exactement. Le premier, et vraiment le plus critique pour la profession, c'est la menace directe sur la confidentialité et le secret professionnel. Utiliser une IA, surtout une solution qui serait gratuite ou grand public, en y téléversant des informations clients qui ne sont pas protégées, c'est prendre un risque énorme.
Le risque que ces données soient...
Qu'elles soient conservées quelque part, qu'elles soient analysées par le fournisseur, voire qu'elles soient réutilisées pour entraîner de futurs modèles d'IA. C'est un risque majeur.
C'est un peu le cauchemar de tout avocat, quoi.
Absolument. Un autre risque est pointé dans le livre blanc, c'est celui de la perte de savoir-faire.
Ah oui ? Comment ça ?
À force de déléguer des tâches intellectuelles, comme la recherche ou même la première rédaction, à une machine, l'avocat pourrait à terme voir ses propres compétences s'éroder. Sa capacité d'analyse fine, sa finesse rédactionnelle, Il y a un équilibre délicat à trouver entre l'assistance et la dépendance, en quelque sorte.
Je vois. Et quid de la responsabilité si l'IA se trompe, si elle hallucine, comme on dit?
C'est le troisième risque majeur soulevé, la responsabilité de l'avocat en cas d'erreur de l'IA. Ce phénomène des hallucinations, il est bien réel. L'IA peut générer des informations qui ont l'air parfaitement plausibles, très bien écrites, mais qui sont en fait complètement fausses ou inventées de toutes pièces.
Et ça arrive.
Oui, et le livre blanc cite d'ailleurs des cas concrets. Des avocats, aux États-Unis et au Canada, qui ont été sanctionnés par les tribunaux. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient cité dans leurs conclusions des décisions de justice qui n'existaient tout simplement pas. Elles avaient été générées par une IA.
Incroyable.
Ça montre bien que l'avocat ne peut absolument pas faire confiance aveuglément à l'outil. La vérification humaine, critique, elle reste primordiale, indispensable.
Face à ces risques qui sont quand même bien réels, le barreau ne s'est pas contenté de négocier des tarifs sur des outils. Il a aussi élaboré une sorte de boussole, on pourrait dire, le guide de bonne pratique de l'IA qui est annexé au livre blanc.
Oui.
Et c'est là qu'on trouve les conseils vraiment pratiques pour le quotidien de l'avocat, c'est ça?
Exactement. Ce guide, il est très concret. Il s'articule autour de grands piliers déontologiques fondamentaux. Le premier, sans surprise, c'est la protection absolue du secret professionnel et de la confidentialité.
Le Graal de l'avocat.
C'est ça, le guide le martèle aux boulésiens. Le secret général, absolu, illimité dans le temps et d'ordre public. Donc le risque numéro un, c'est clairement le téléversement de données clients brutes, non anonymisées, dans des systèmes dont on ne maîtrise pas complètement le fonctionnement ou les conditions d'utilisation, surtout les outils gratuits ou étrangers.
Alors, comment faire concrètement? Comment utiliser ces outils sans mettre en péril ce secret?
Le guide préconise plusieurs parades, plusieurs bonnes pratiques. La première et la plus évidente, c'est l'anonymisation ou la pseudonymisation systématique des données avant de les soumettre à une IA externe.
C'est-à-dire enlever les noms, les dates?
Voilà, retirer tous les noms, les dates précises, les lieux spécifiques, tout ce qui permet d'identifier une personne ou une affaire. On peut aussi travailler sur des versions abstraites des cas en décrivant la situation juridique sans les détails factuels identifiants.
Et sinon?
L'autre voie, c'est d'utiliser des outils qui offrent des garanties contractuelles très fortes sur la non-conservation et la non-réutilisation des données pour l'entraînement du modèle. Ce sont souvent des solutions payantes dédiées aux professionnels du droit. Ou alors, des outils comme CEDI, dont on parlait, qui fonctionnent entièrement en local, sur le poste de l'avocat, sans aucun transfert de données vers l'extérieur.
Une vigilance particulière pour le pénal ?
Oui, le guide insiste, une vigilance extrême est de mise pour toutes les informations qui sont couvertes par le secret de l'instruction en matière pénale. Là, le risque est encore plus élevé.
Logique. Le deuxième pilier du guide rappelle les devoirs de diligence, de prudence et de responsabilité de l'avocat.
Oui, et c'est absolument crucial. Le message clé, c'est que l'avocat reste toujours et entièrement responsable du travail final qu'il produit, même s'il a utilisé une IA pour l'aider.
L'IA ne le décharge pas de sa responsabilité.
Absolument pas. Ses obligations de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence, elles ne disparaissent pas avec l'IA. Au contraire, elles impliquent une vérification systématique et critique de tout ce que l'IA produit. C'est là que le risque des fameuses hallucinations est directement adressé.
Il faut tout revérifier.
Tout. L'IA peut se tromper. Elle peut omettre des informations importantes, elle peut introduire des biais cachés dans ses réponses, ou même fournir des analyses juridiquement inadaptées si elle a été entraînée principalement sur un autre système juridique, comme la common law américaine par exemple. Donc, la validation humaine, ce n'est pas une option, c'est une obligation déontologique.
Ce qui nous mène assez naturellement au troisième pilier du guide, l'IA, la nécessité d'une supervision humaine constante et la préservation de l'indépendance de l'avocat. L'IA doit rester ce qu'elle est, un outil d'aide, pas un décideur.
Tout à fait. L'avocat doit absolument garder la main. Il doit conserver son jugement critique, son indépendance intellectuelle. C'est lui, l'expert qui analyse la situation, qui nuance la réponse de l'IA, qui l'adapte au cas précis et qui valide le résultat final. L'IA assiste, elle ne remplace en aucun cas le raisonnement juridique de l'avocat.
Le quatrième pilier, lui, concerne la protection des données personnelles, en lien direct avec le RGPD. C'est un peu différent du secret pro.
Oui, c'est complémentaire. Le secret professionnel couvre les informations liées au dossier, à la relation avocat-client. La protection des données personnelles, au sens du RGPD, elle concerne toutes les données qui permettent d'identifier une personne physique, qu'elle soit cliente, partie adverse, témoin.
D'accord.
Et là, le guide rappelle l'interdiction formelle de téléverser des données personnelles, et a fortiori des données sensibles, santé, opinion politique, etc., sans avoir des garanties contractuelles solides de la part du fournisseur de l'outil IA.
Quelles garanties ?
Les mêmes que pour le secret pro, en fait. Il faut appliquer le principe de minimisation des données, ne traiter que ce qui est strictement nécessaire, anonymiser ou pseudonymiser dès que c'est possible, et surtout s'assurer que l'outil garantit la suppression effective des données après usage et qu'il ne les utilise pas pour son propre entraînement. Il faut aussi vérifier la politique de conservation des données du fournisseur, combien de temps il les garde. C'est un réflexe indispensable à avoir.
Enfin, le guide aborde un cinquième pilier, la question épineuse de la propriété intellectuelle.
Oui, et là, la vigilance est double. D'une part, l'avocat doit faire attention à ce que les contenus générés par l'IA qu'il utilise ne violent pas des droits d'auteur existants.
Comment ça ?
Une IA générative, elle a été entraînée sur d'énormes quantités de textes et d'images. Elle peut parfois régurgiter des portions d'œuvres protégées sans forcément le signaler. Donc, il faut être prudent avant de réutiliser tel quel un contenu généré.
D'accord. Et l'autre aspect ?
L'autre aspect, c'est l'incertitude juridique qui règne encore aujourd'hui sur la titularité des droits d'auteur sur les créations qui sont générées par l'IA elle-même. Est-ce l'utilisateur, le concepteur de l'IA ? Personne, c'est encore flou. Et bien sûr, il faut aussi garantir que la propriété intellectuelle des clients, des brevets, des marques, des secrets d'affaires qui seraient éventuellement traités via une IA soit absolument protégée et non divulguée.
Au-delà de ces grands principes déontologiques, le guide propose aussi des réflexes très concrets. Une sorte de checklist mentale pour l'avocat au quotidien.
Oui, tout à fait. Les pages 19 à 21 du livre blanc et le guide lui-même en annexe regorgent de conseils très pratiques. Par exemple, choisir des outils qui sont spécifiquement entraînés sur le droit français ou au moins sur le droit continental européen. C'est plus pertinent.
Et sur la sécurité ?
Scruter la sécurité, bien sûr. Vérifier où sont hébergées les données. Est-ce dans l'Union européenne ou dans un pays reconnu comme offrant un niveau de protection adéquat ? Est-ce que les communications sont chiffrées ? Le fameux HTTPS. Est-ce que le fournisseur affiche des certifications de sécurité reconnues, comme la norme ISO 27001, qui est un standard international pour la gestion de la sécurité de l'information ? Est-ce qu'il y a une authentification forte pour accéder à l'outil ?
Et surtout, j'imagine, lire les petites lignes, les conditions générales.
Fondamental. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Il faut éplucher les conditions générales d'utilisation, les CGU, et les politiques de confidentialité des outils. Que disent-elles exactement sur la réutilisation des données soumises ? Qui sont les éventuels sous-traitants ? Comment les données sont-elles supprimées à la fin ?
C'est un vrai travail d'enquête, presque.
Un peu, oui. Et pour aider, le barreau fournit même une checklist très pratique en annexe 2 du livre blanc. Ça permet d'évaluer les fournisseurs sur tous ces critères essentiels avant de choisir un outil et de s'engager. Et bien sûr, le guide insiste sur un dernier point, l'obligation de se former et de former ses équipes en continu.
Ah, c'est une obligation.
Oui, le guide rappelle que ça fait partie intégrante de l'obligation déontologique de formation continue qui pèse sur chaque avocat. Se tenir à jour sur les évolutions technologiques de l'IA, comprendre ses capacités mais aussi ses limites, maîtriser les aspects déontologiques liés à son usage et former également son personnel, collaborateurs, secrétariat, tout cela fait désormais partie des compétences attendues d'un avocat diligent.
Bon, en résumé, si on essaye de synthétiser un peu cette exploration du livre blanc parisien, on voit que l'IA est clairement perçue comme une lame de fond. Inévitable.
Oui.
D'un côté, il y a un potentiel énorme. Pour améliorer l'efficacité, automatiser le rébarbatif et peut-être même, paradoxalement, recentrer l'avocat sur sa plus-value humaine. Le conseil, la stratégie...
C'est l'objectif affiché.
Mais de l'autre côté, il y a des risques et ils sont bien réels, sérieux. Surtout pour la confidentialité, le secret professionnel qui est quand même le cœur du réacteur pour un avocat. Et puis la responsabilité.
Tout à fait. Et face à ce tableau qui est assez contrasté, la démarche du barreau de Paris, elle se distingue vraiment par son pragmatisme et sa proactivité.
C'est le mot d'ordre, ne pas subir.
Voilà, ne pas subir, mais accompagner, outiller, en pensant d'abord aux structures les plus fragiles économiquement pour éviter la fracture numérique. Former massivement et surtout encadrer par des règles déontologiques qui soient claires et applicables au quotidien. Le message sous-jacent, il est fort, hein. L'IA doit rester un outil maîtrisé par l'avocat, à son service, et non l'inverse. L'humain doit garder le contrôle.
Une approche qui semble effectivement assez équilibrée, responsable.
Oui, et que peut-être pour ouvrir une réflexion finale. Le livre blanc et le guide, ils insistent très fortement, et à juste titre aujourd'hui, vu l'état de la technologie, sur le rôle de l'IA comme outil d'assistance. C'est la posture prudente nécessaire. Mais si on se projette un peu, disons quelques années en avant, imaginons des IA qui deviennent beaucoup plus sophistiquées, capables non seulement de rédiger des conclusions quasi parfaites, mais peut-être de suggérer des stratégies procédurales vraiment complexes, d'anticiper les arguments de la partie adverse avec une finesse redoutable en analysant des millions de décisions passées. On n'y est pas encore, mais la progression est rapide. Alors, la question qui se posera, c'est où se situera la frontière, qui deviendra de plus en plus floue, entre ce qui relève de l'assistance et ce qui pourrait être une forme de délégation du jugement critique de l'avocat?
Oui, la question de la responsabilité va devenir encore plus complexe.
Exactement. Comment la responsabilité de l'avocat, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, devra-t-elle évoluer face à des machines qui seraient potentiellement si performantes, voire plus rapides, sur certaines tâches purement analytiques? C'est une interrogation qui est, je pense, fondamentale. Elle reste ouverte et elle demandera sans doute une adaptation continue de la pensée déontologique au fur et à mesure que ces technologies vont s'affiner et s'intégrer toujours plus profondément dans la pratique quotidienne du droit.
Une réflexion à suivre de très près, donc. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à vous.